Et voici le journal de Catherine Dutu depuis Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce n'est pas un départ, mais une scission. Emmanuel Morel, le leader de l'aile gauche du Parti Socialiste, détaille ce matin au Monde les raisons qui le poussent à quitter le PS. Il ne correspond plus à l'idée que je me fais du socialisme, explique l'eurodéputé qui regarde désormais vers la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. De quoi déboussoler les militants socialistes à 8 mois des élections européennes, vous les entendrez. Eux ont célébré un schisme religieux. Des Ukrainiens ont manifesté leur joie hier soir devant la cathédrale de Kiev ou sur les réseaux sociaux, après la décision du patriarcat de Constantinople de reconnaître en Ukraine une église orthodoxe indépendante de Moscou. Décision lourde de conséquences, prévient le patriarcat de Moscou, proche de Vladimir Poutine. À la une encore, 14 km², c'est la zone où devait se construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et qui doit être partagé entre différents projets agricoles. Tour d'horizon dans ce journal des acteurs avant un nouveau comité de pilotage à Nantes aujourd'hui. L'Arabie Saoudite renonce à entrer dans l'organisation internationale de la francophonie. La disparition du journaliste Jamal Khashoggi à l'ambassade saoudienne à Istanbul a joué un rôle. Affaire embarrassante pour le prince héritier d'Arabie Saoudite qui veut moderniser son pays mais qui se comporte en jeune autocrate. À 7h15, région, département, commune, les territoires sont-ils les grands perdants du macronisme? C'est la question du jour que vous poserez Guillaume Erner à Marc Gricourt, maire socialiste de Blois, ville où les matins sont en direct à l'occasion des 21e rendez-vous de l'histoire de Blois. Comme un avion sans aile, le Parti Socialiste perd aujourd'hui son aile gauche, incarnée par Emmanuel Morel. L'eurodéputé explique ce matin au Monde qu'il quitte donc le PS, suivi, dit-il, par une centaine de cadres et d'élus, dont la sénatrice de Paris, Marie-Noël Lindemann. Emmanuel Morel regrette que le Parti Socialiste ne défende plus les intérêts des gens modestes, que le parti n'ait pas fait son droit d'inventaire après, je cite, le quinquennat calamiteux de François Hollande. Et lui, qui est proche de la France insoumise, préfère désormais s'allier avec la gauche radicale et les écologistes, plus d'aile gauche donc au PS à 8 mois des élections européennes. Scrutin où les militants étaient appelés à voter hier soir pour définir la ligne du PS. Deux textes proposés, celui du premier secrétaire, Olivier Faure, avec le député Luc Carvounas et l'ancien ministre Stéphane Le Foll, voilà pour le courant majoritaire. De l'autre côté, plus à gauche, un texte d'Emmanuel Morel, mais son départ annoncé a perturbé hier soir donc le vote des militants dans un PS au rang déjà clairsemé. Le reportage de Sophie Delpont dans le 12e arrondissement de Paris.
La rumeur du départ d'Emmanuel Morel empoisonne le vote. Alors quand Reuters annonce que l'eurodéputé aurait déjà confirmé qu'il claquait la porte dans une interview à paraître aujourd'hui, Monique laisse s'éclater sa colère.
Moi je trouve ça inadmissible. On présente un texte et avant que le texte soit voté, on dit qu'on s'en va. Pour moi, c'est vraiment de la déloyauté. Ou il ne faisait pas de texte et il disait « je pars », où il attendait au minimum le résultat pour dire « je pars ». Là, c'est cousu de fil blanc.
Quelques militants déposent leur bulletin dans l'urne sous le regard de Jean-Dominique Capucci, secrétaire de la section du 7e arrondissement.
Dans la section, on est 4 pour l'instant. On est que 21 jours des cotisations. Ils nous en ont mis 70. Les listes sont optimistes.
Et là, vous êtes plutôt alors, du côté du soutien à la direction?
Non. J'ai voté Emmanuel Morel, mais... S'il s'en va, il s'en ira trop tôt, comme d'autres.
Jean-Dominique ne suivra pas Emmanuel Morel, mais Gérard, responsable de la section numérique, craint une série de départs dans le sillage de l'eurodéputé.
J'espère que ce n'est pas un virus.
Philippe a 47 ans, il y voit plutôt une clarification nécessaire dans un langage fleuri.
Mais je ne pense vraiment pas que ça va déplacer une décimale après la virgule, son mouvement, vous voyez, son départ. Franchement, ça, je ne cite pas chevaux Jacques Chirac, mais comme il dit, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est nobody, personne ne le connaît, c'est pas grave.
Emmanuel Morel avait réuni près de 19% des voix socialistes en mars dernier. Et dans son sillage, la sénatrice Marie-Noël Lindemann pourrait-elle aussi claquer la porte lors du Conseil national de demain?
Et en Espagne à présent, les socialistes au pouvoir se sont eux alliés avec Podemos, parti plus à gauche, pour boucler hier le budget 2019, résolument anti-austérité, avec un salaire minimum relevé de 735 à 900 euros par mois. Cet accord pourrait permettre au gouvernement de Pedro Sánchez de rester en place jusqu'aux prochaines législatives, mi-2020. Les précisions à Madrid de Marie-Hélène Ballestero.
Le projet de budget 2019 se veut résolument social et anti-austérité. Il est urgent d'inverser les cicatrices de l'austérité, peut-on lire justement en préambule de cet accord. Parmi la batterie de mesures sociales, deux sont particulièrement représentatives. Le salaire minimum sera relevé de 736 à 900 euros par mois, soit une hausse de 21% du jamais vu. Quant aux retraites, elles seront indexées sur l'inflation. Une grande partie du budget sera également consacrée à l'aide aux personnes dépendantes. Et comment seront financées ces mesures sociales? Eh bien, en relevant par exemple l'impôt sur les plus hauts revenus à partir de 130 000 euros, en augmentant aussi de 1% l'impôt sur le patrimoine pour les fortunes de plus de 10 millions d'euros, sans parler de la hausse de l'impôt sur les bénéfices pour les grandes entreprises et une taxe sur les transactions financières. Un projet de budget donc très social qui sera présenté lundi à Bruxelles. Par la suite, il doit encore être validé par le Parlement espagnol. Face à l'opposition affichée du Parti populaire et de Ciudadanos, l'appui des nationalistes basques et des indépendantistes catalans s'avère indispensable.
Et le Parlement de Catalogne encore a voté hier une résolution appelant à l'abolition de la monarchie en Espagne, inacceptable pour le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui a menacé d'intenter une action en justice. Elle pense qu'un accord sur le Brexit est imminent. La Première ministre britannique Theresa May a réuni hier soir son cabinet restreint pour l'informer d'un accord tout proche, dit-elle, sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est ce que rapporte le Financial Times, mais il n'y a pour l'instant pas d'avancée majeure, tempère la Commission européenne. C'est une catastrophe, un schisme qui aura des conséquences extrêmement graves. Les plus hauts responsables de l'Église orthodoxe à Moscou n'acceptent pas de voir l'Église orthodoxe ukrainienne être reconnue désormais par le patriarcat de Constantinople comme une église à part entière. Cette décision historique est un nouvel acte d'indépendance face à Moscou, a estimé le président ukrainien Petro Poroshenko hier, au risque de provoquer donc la colère des patriarches russes proches de Vladimir Poutine. Bonjour, bonjour Claude Bruyot.
Bonjour Catherine.
Vous êtes le correspondant de France Culture à Moscou. Expliquez-nous tout d'abord ce qui a provoqué ce schisme dénoncé par l'Église orthodoxe russe.
Alors je crois qu'il faut considérer deux aspects. Le premier, le plus important, ce sont évidemment les relations bilatérales entre l'Ukraine et la Russie, le conflit ouvert depuis bientôt 5 ans, depuis la révolution pro-européenne du Maïdan en Ukraine, qui a débouché, on le sait, en réaction sur le retour de la Crimée dans le giron de la Fédération de Russie et surtout sur la guerre dans le Donbass, trouve aujourd'hui donc sa traduction sur le terrain de la religion. Mais cette volonté de l'Église orthodoxe d'Ukraine de s'affranchir du patriarcat de Moscou, qui s'est affirmé donc depuis 4 ans, en même temps que la société civile ukrainienne se tournait majoritairement vers l'Ouest, a véritablement commencé à s'exprimer il y a plus de 25 ans déjà, quand l'Ukraine est devenue indépendante au moment de la chute de l'URSS. Et puis, il y a un deuxième aspect, davantage en toile de fond, mais qui a joué aussi un rôle important, c'est la lutte d'influence que se livrent le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Constantinople, le premier fort de ses 150 millions de fidèles, disputant au second sa position dominante dans le monde orthodoxe.
Et cette église orthodoxe indépendante en Ukraine porte un coup sérieux au statut du patriarcat de Moscou dans le monde orthodoxe. Cela signifie une perte d'influence et une perte de manne financière, Claude.
Oui, alors, si on met en parallèle, toutefois, pour l'instant, les mots et les actes, on pourrait dire que le patriarcat de Moscou, très proche de Vladimir Poutine, fait beaucoup dans la surenchère verbale en parlant de catastrophes aux conséquences très graves et pas uniquement financières, alors que la seule mesure, pour l'instant, d'opposition à l'indépendance de l'Église orthodoxe d'Ukraine a été le boycott de toutes les références à Bartholomée, le patriarche de Constantinople, dans les cérémonies religieuses en Russie. Mais la réalité viendra du terrain. Les 8000 églises et monastères orthodoxes d'Ukraine devraient choisir en grande majorité de quitter le giron de Moscou, mais il en restera des centaines qui résisteront. Certaines, hier soir d'ailleurs, appelaient déjà leurs fidèles à venir défendre physiquement les lieux de culte. Et vous imaginez bien que le patriarcat de Moscou et le Kremlin suivront de très près la façon dont sera traitée cette minorité, malgré les appels au calme hier du patriarcat de Kiev. Des tensions ne sont pas à exclure, car il ne faut jamais oublier, avec son territoire et ses marches, avec sa langue, la religion orthodoxe aujourd'hui isolée reste l'un des piliers de l'identité russe, un pilier qui est en train de perdre une de ses pierres de base historiques depuis hier soir.
Claude Bruyot, merci. Vous étiez en direct de Moscou ce matin pour France Culture. Bientôt 7h10 sur France Culture. La France compte 5 millions de pauvres, 5 millions de personnes qui vivent avec moins de 855 euros par mois. C'est ce qu'estime l'Observatoire des inégalités. La pauvreté ne cesse d'augmenter, touchant 600 000 personnes de plus qu'il y a 10 ans. On y revient dans le journal de 7h30. Quelques 14 km², c'est un peu plus d'un dixième de Paris intramuros. C'est la zone où devait se construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et qui doit être partagé entre différents projets agricoles. Un troisième comité de pilotage se tient ce matin à Nantes, Véronique Roberotte.
15, c'est le nombre de projets agricoles retenus pour l'instant par les membres du comité de pilotage. La préfète, Nicole Klein, doit aujourd'hui trancher sur d'autres dossiers en litige autour de l'attribution de terres agricoles. La situation n'est pas simple. Des agriculteurs qui avaient accepté des indemnités de Vinci pour quitter leurs terres à cause du projet d'aéroport souhaitent revenir les exploiter. Parfois, ils n'ont jamais cessé de les exploiter malgré les indemnisations. Une entente avec Vinci afin que les terres ne soient pas en friche au moment où l'aéroport se construirait, ce qui crée aujourd'hui des conflits d'usage. Les discussions s'annoncent plus compliquées encore sur l'avenir de l'ensemble des terres de la zone humide de Notre-Dame-des-Landes. Les zadistes qui souhaitent rester n'en exploitent aujourd'hui qu'une petite partie, au maximum 270 hectares, sur les 1500 hectares au total. Pas question pour les zadistes et leur soutien de voir ces terres qu'ils ont sauvées du bétonnage livrées à une agriculture intensive. Cette demande de paysannerie solidaire sera à nouveau formulée aujourd'hui en préfecture, appuyée à l'extérieur par une manifestation des soutiens de la ZAD venue avec des tracteurs à Nantes. Les demandes des zadistes portent aussi sur le maintien d'habitats alternatifs sur la ZAD, ceci alors que la préfète n'a pas écarté ces derniers jours la possibilité d'une intervention ciblée des gendarmes pour évacuer une ferme abritant des zadistes jugés radicaux.
L'Arabie Saoudite a renoncé hier à entrer dans l'Organisation internationale de la francophonie, réunie en Arménie. Riyad critiqué pour ne pas respecter les droits de l'homme, sous pression aussi de la Turquie et des États-Unis ces derniers jours après la disparition à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, disparition imputée à l'Arabie Saoudite. Une affaire très embarrassante pour MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite, qui se présente comme le modernisateur du royaume. Mais ce qui se dessine plus clairement, c'est le profil d'un jeune autocrate qui refuse toute critique, estime Alain Grèche, directeur du journal en ligne Orient 21.
La prise de pouvoir par MBS, c'est une prise de pouvoir au sein de la famille royale où il élimine tout le monde. Politiquement, il les arrête éventuellement et il devient le seul décideur. C'est lui qui a commencé la guerre au Yémen, qui est une catastrophe. C'est lui qui a commencé le bras de fer avec le Qatar, qui est une catastrophe pour l'Arabie Saoudite, hein, pour les intérêts propres de l'Arabie Saoudite. C'est lui qui a enlevé le Premier ministre libanais Hariri, qui a été ensuite obligé de le libérer. Donc il y a un aspect à la fois d'un autoritarisme très centralisé et aussi d'un homme dont il faut dire qu'il est d'une brutalité extraordinaire. C'est quelqu'un qui n'accepte pas les critiques. C'est-à-dire quel intérêt il a eu à arrêter les femmes qui avaient été à l'origine de la bataille pour permettre aux femmes de conduire. C'est lui qui les a arrêtées. C'est quand même assez curieux au moment où il libéralisait la conduite des femmes.
Après des mois de polémique, l'œuvre controversée de Jeff Koons, Bouquet of Tulips, sera finalement installée dans les jardins du Petit Palais. C'est ce qu'a annoncé ce matin Christophe Girard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la culture, à nos confrères de France Inter. Le temps de ce vendredi 12 octobre, presque estival. Les températures seront comprises ce matin entre 10 et 14 degrés sur la moitié nord du pays, 13 à 18 au sud.